À 17h25, Pierre-Yves, tu vas nous parler de cette idée de lancer une nouvelle bourse aux États-Unis.
Oui, là, je parle pas d'un sac à main Hermès, là. Non, je parle de...
Je me doutais bien.
Oui, parce que...
J'eus été très étonné.
Mais c'est très cher, d'ailleurs, un sac à main Hermès, donc j'ai pris une autre sorte. Mais faut y aller par les intermédiaires. Pourquoi on lance cette idée-là aujourd'hui? On dit simplement que les intermédiaires dans le système financier font de l'argent. Tu sais, prenez Visa et Mastercard, par exemple. Ce sont des intermédiaires qui font de l'argent chaque fois qu'on fait une transaction avec nos cartes de crédit. Les banques sont des intermédiaires qui font des sous avec nos prêts, nos dépôts et autres transactions financières. Et les bourses sont une autre catégorie d'intermédiaires qui font de l'argent avec quoi? Avec les sociétés qui décident d'aller en bourse, donc d'être publiques au niveau de l'émission des actions, et des investisseurs. Et là, évidemment, il y a la série entre la bourse et l'investisseur, il y a la série d'intermédiaires. Mais là, on dit, les bourses en tant que telles, il y a peut-être une concentration des transactions. Et aux États-Unis, peut-être qu'on pourrait offrir un autre modèle, donc un nouveau modèle de bourse, ou une bourse qui a une petite différenciation, qui serait fondée par différents joueurs qui sont quand même dans le marché, donc tu sais, Morgan Stanley, Bank of America et autres, et ce serait un regroupement qui fonderait une nouvelle bourse, qui serait peut-être orientée à faible coût et offrir des produits simples, mais on veut aller chercher ça. Tu vois, encore une fois...
Est-ce que ça pourrait être plus vert ou ça, ça n'a rien à voir?
Non, je pense vraiment plus, ce serait du côté d'offrir un modèle qui est simple et moins cher au coût au coût d'accès, au coût de transaction. Donc, offrir une différenciation. Parce qu'il faut se le dire, tu sais, même à Montréal, à l'époque, il y avait une bourse à Montréal qu'on connaît bien, évidemment, qui a été vendue et tout ça. Et il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Pourquoi? C'était des intermédiaires d'un système de transactions. Donc, c'est un peu le même principe. Ici, on nous dit, on veut aller chercher la part de marché qui est le courtage simple, les ordres simples, et on veut chercher des faibles coûts. Donc, offrir une différenciation par rapport aux autres bourses qui contrôlent majoritairement les marchés et donc l'intermédiaire.
Bien. Maintenant, tu voulais aussi nous parler ce soir de l'effet janvier en bourse. Là, on est dedans, là.
L'effet janvier, en fait, c'est qu'il y a des statistiques qui disent que, dans le fond, janvier est historiquement un bon mois, une espèce d'effet rebond. Est-ce que c'est parce que c'est les bonis de fin d'année qui rentrent et les gens veulent réinvestir? Est-ce que c'est les gens qui viennent de fêter Noël qui se disent « Ah, je vais avoir de meilleures opportunités d'investissement? » Est-ce que c'est la contribution REER au Canada? Est-ce que c'est simplement le fait qu'on commence l'année? Chose certaine, encore en décembre, il y a eu une baisse au mois de décembre. Après Noël, c'était le creux. On l'a vécu. Et là, on remonte depuis janvier, depuis début janvier. Ça fait juste quelques jours. Évidemment, il y a aussi l'effet de fin d'année. Il y a des gens qui veulent fermer leur position au mois de décembre pour capitaliser leurs gains de l'année et reprendre les marchés en janvier. Mais évidemment, on n'est pas tous de ce qu'on appelle des day traders. On va pas se mettre à transiger toi et moi tous les jours pour profiter du gain de janvier historique et laisser faire le reste de l'année. Mais depuis le début janvier, écoute bien ça, imagine juste là, par exemple, Dollarama, 1,45% de rendement, mais là on parle en 7 jours, dont des jours fermés. Wow. La baie du Tisson, 14%.
Wow.
Facebook, 5%. McDonald's, 1,8%. Netflix, 18%. Donc, tu vois, il y a des titres
qui
sont extrêmement en rebond. Et là, c'est 7 jours. Évidemment, on ne fait pas ce rendement-là sur l'année. Mais c'est de montrer qu'il y a un effet boursier janvier. D'ailleurs, au Québec, au Canada, c'est souvent le cas pour les gens. On leur demande, quand est-ce que vous investissez?
Ben, j'investis dans la saison des REER.
Donc, on s'invente. En fait, c'est le moment limite où on peut cotiser à nos REER pour avoir la déduction en avril. Donc, souvent, les gens veulent attendre d'aller à la limite pour aller emprunter la somme, cotiser et se faire rembourser à même leur déclaration fiscale plus tard. Mais on retarde et c'est ce qui fait en sorte que parfois, on voit en janvier cette espèce d'effet de contribution boursière concentré qui fait qu'il crée une demande. Évidemment, ça s'estompe. L'an dernier, on a beau faire un beau pourcentage en janvier, ça s'est estompé en fin d'année et finalement, on n'a pas fait d'argent sur l'année. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a cet effet janvier. Et ce n'est pas de la neige.
Et d'après toi, ça va continuer encore. Ça ne va pas être toute l'année, comme tu dis, mais d'après toi, ça pourrait durer encore jusqu'à la fin janvier?
Je fais simplement... historiquement, janvier donne un rendement minimal. Mais tu sais, historiquement, des années oui, des années non, mais en moyenne, sur des décennies, il y a ce qu'on appelle... On a noté qu'il y a une plus grande corrélation entre la hausse de la bourse et janvier. Mais ce n'est pas du tout à ce point-ci. Genre, scientifique, c'est sûr que vous allez faire de l'argent. Je dis juste qu'on est encore ici dans une petite hausse qu'on qualifierait d'effet de janvier. Mais écoute, il suffit d'une mauvaise nouvelle ou d'un retournement de bourse et on retourne dans l'autre sens.
Et puis, on va voir aussi ce qui va se passer avec M. Trump et son discours à la Nation.
Oui, c'est quelque chose.
C'est fou. C'est fou.
Je vais aller faire quelques rosaires en attendant.
Écoute, je pense que ça ne sera pas perdu. Résolution financière, tu dis qu'on est mieux de baisser viser une baisse de nos dépenses plutôt que d'essayer de faire plus d'argent.
Oui, et ça, je sais
que... Je te reconnais.
Oui, mais je t'explique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je trouve ça un minimum, puis je survis. Ça, c'est vrai. Mais mettons-nous au salaire moyen. Gagner 1000 piastres de plus, là, c'est comme le salaire d'une semaine. Hein. Si vous gagnez 50 000 par année, gagner 1000 $ de plus, c'est comme une semaine de travail. Vous allez payer 37 % d'impôts là-dessus, plus certaines charges sociales. Vous allez diminuer vos avantages fiscaux comme l'allocation canadienne pour enfants. Donc, chaque dollar gagné en plus coûte cher. Donc, vous gagnez 1000, vous avez 629 net d'impôts, plus d'autres charges à payer, peut-être certains paiements. Donc, finalement, travailler plus, vouloir gagner plus est très cher. Mais quand vous te revirez de bord? Puis tu te dis, ah non, je vais aller couper 1000 piastres de dépenses. Mais 1000 piastres de dépenses nettes, là, c'est 15 % de taxes, donc 14,975 % de taxes de moins. Et il y a statistiquement au Canada deux postes faciles à couper par rapport à d'autres.
En moyenne, je t'écoute.
Oui, mais facile par rapport à d'autres, là, évidemment. En moyenne au Canada, un ménage dépense pour 64 000 piastres par année. En moyenne. Et deux postes qui sont drôles à observer, c'est l'alimentation. Savais-tu qu'au Canada, en moyenne, 30 % de notre alimentation en dollars, ce sont les restaurants.
Ah non, 30 %, je pensais pas que c'était 30 %. Okay.
C'est beaucoup quand même. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement le nombre de repas. Parce que pensez-y, un souper au restaurant de vendredi soir peut équivaloir à l'épicerie d'une semaine. Donc, en dollars, la restauration, c'est le poste de dépense où les Canadiens pourraient techniquement couper tout en maintenant leur qualité de vie. Parce qu'évidemment, ta bouteille de vin à 15 $ à la SAQ est 45 $ au restaurant, plus tips et autres. Autre point intéressant, c'est le transport. Sais-tu quel pourcentage le transport représente sur notre budget?
Ah, voyons donc.
20 %.
Oh!
20 % de toutes nos dépenses de notre ménage, c'est le transport. Donc, si vous êtes dans votre beau véhicule d'année présentement en route vers la maison, vous êtes en train de dépenser 20 % de votre salaire pour payer la voiture qui sert principalement à aller travailler, qui sert à gagner de l'argent pour payer le transport. Et c'est fou pareil quand on y pense.
Là, tu vas te faire sentir coupable de conduire notre auto.
Non, mais c'est pas ça, mais je te dis, c'est fou. 11/12 du budget est dans le transport privé. Ce qui veut dire que dans le transport collectif, en moyenne au Canada, 11/12, c'est le transport privé. Donc, on concentre nos dollars dans l'automobile unitaire, probablement, et on laisse aller le transport collectif dans la majorité du temps. Et c'est ce qui fait en sorte que on plombe nos économies. Et là, les gens disent, oui, mais je reste loin. Ah, donc ça démontre que le coût de demeurer loin de son travail, des fois c'est pas par choix, a un coût important, une ponction significative sur notre budget. Donc, imaginez.
Oui. Et surtout avec l'essence, oui.
Oui. Écoute, imagine, le logement représente 18 600 $, mais le transport près de 13 000 $. Donc, on met le deux tiers de notre argent, ben, ça fait partie du coût, mais le deux tiers de notre argent dans le transport. Donc, le logement, lui, lorsque tu vis dans un investissement, il se garde, il se préserve tout au moins. Oui, il y a de l'intérêt. Oui, il y a des taxes foncières. Oui, il y a de l'entretien. Mais il y a une portion qui demeure. Le transport meurt de lui-même.
Donc, oui, c'est une dépense. C'est pas un investissement, une auto.
Exactement. Donc, une bonne façon, évidemment, le covoiturage, payer moins cher, rouler en minoune, qu'est-ce que vous voulez? La carte CA n'est jamais assez chère pour justifier cette voiture. Non, on taquine, mais c'est pour montrer à quel point c'est fou. Et la télécommunication, imaginez, on dépense en moyenne près de 2400 $ par année en télécommunication au Canada. Ça veut dire évidemment abonnement et téléphone, etc. Mais c'est de l'argent net. Donc, nos téléphones nous coûtent très cher aussi. Et évidemment, pour le plaisir, là, on a 125 $ par mois environ de tabac et d'alcool. Mais bon, là, c'est un choix plus personnel. Mais c'est démontrer à quel point c'est extrêmement coûteux de dépenser, en fait,
mais
dans certains secteurs.
C'est coûteux de vivre, tu sais.
Oui, la vie coûte cher, hein. On va tous mourir, comme dirait un comptable que je connais, on va tous mourir d'une dépense un moment donné et ce sera notre cercueil. Mais c'est vrai. Mais pour y revenir,
il faut laisser la succession le payer, tu sais.
Non, mais pensez, on se bat pour gagner 1%, 2% de salaire par année. On paye de l'impôt. On n'est pas plus riche, mais couper dans un petit restaurant, puis se payer un petit mouton cadet au lieu d'un Bordeaux de l'année, tu sais, ou de l'année passée plutôt, ça peut permettre de sauver quelques dollars. Alors, c'est une réflexion de début d'année du cheap comptable, voilà.
Ben écoute, j'aime bien tes résolutions, j'aime bien tes propositions. Alors, Pierre-Yves McSween, on va essayer de t'écouter, puis on va voir ce que ça donne à la fin de l'année. On va être content. Merci beaucoup.
Salut.
Salut.